Voix de Service Magazine, édition du 16 novembre 2017. Donc, un petit peu plus d'un mois avant Noël.
Oh.
Alors, Monique Kerouac au micro et Marie Lalande. Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour.
Et Yvan Deslauriers.
Bonjour. Marie.
Bonjour. Et bien sûr, n'oublions pas notre cher Mathieu derrière la console, maître des choix musicaux.
Il ne se reconnaît pas.
Il ne se reconnaît pas. Alors, Marie et Yvan, je vous invite à nous présenter nos petits résumés des articles que vous allez nous présenter.
Moi, je vais vous parler d'enfants tannants. Deux textes que j'ai choisis cette semaine qui parlent d'enfants tannants. Les enfants tannants à l'école. Donc, la responsabilité est à qui?
On va se questionner. Pas dans un studio de radio.
Non, non, pas ce matin.
On a promis d'être sage, n'est-ce pas, Yvan?
Oui.
Chose promise, chose due.
D'accord.
Et donc, le premier texte à l'école et dans le deuxième texte, dans un avion et la réaction que cela suscite.
Au polaire.
Ouais.
Yvan?
Moi, mes interventions aujourd'hui, c'est vous parler d'une des choses que j'aime le plus au monde, c'est le vélo. Mais le vélo qui change des choses.
Mm-hmm.
Alors, dans un premier cas, c'est à l'hôpital. Dans un deuxième cas, c'est pour une personne qui vit une situation particulière. Et dans le troisième cas, c'est on va parler... Oh, c'est vrai, c'est pas du vélo, c'est de la course.
Oui.
Dans le troisième cas, c'est quelqu'un qui est venu s'établir au Canada.
D'accord.
Et vous?
Et moi-même. Alors, un premier article qui parle de l'utilisation, en fait, plus fréquente des animaux de compagnie pour la mise au point de médicaments pour l'humain, soit nous tous autour de la table, entre autres. Et un second qui s'intéresse au Harvard Art Museum, qui abrite un département assez particulier, en fait, qui se consacre à la couleur. Alors, je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors Marie, ces étudiants, ces élèves, ces enfants qui dérangent peut-être?
Oui, tout à fait, on parle d'enfants qui dérangent. Le texte que je vous lis s'intitule « L'école crée-t-elle les mauvais élèves? » C'est un texte de Alexandre Roberge qui a été publié sur le site cursus.edu le 8 novembre dernier. En fait, cursus.edu, c'est un site de formation et de culture numérique. Et c'est français, français de France. C'est une réalité particulière, qui est singulière, particulièrement au niveau de l'éducation. Mais il y a des liens étroits à faire avec notre propre système d'éducation et comment, ce qu'on fait avec les enfants tannants à l'école. Les élèves turbulents dans les salles de classe sont généralement considérés comme une plaie. C'est l'auteur de l'article qui parle. Ils dérangent.
C'est pas moi, en tout cas.
Là, je travaille fort présentement.
Oui, hein?
Je m'en occupe, Marie.
Ils dérangent constamment les autres qui veulent apprendre. Et si, au moins, ils avaient de bonnes notes? Il n'est pas évident de traiter avec ces apprenants qui n'ont pas nécessairement un trouble d'apprentissage, mais qui n'arrivent pas à réussir. Or, si nous distribuons facilement les bonnets d'âne, nous ne leur avons jamais demandé comment ils percevaient l'école. Sont-ils vraiment de mauvais apprenants ou sont-ils plus des traumatisés de l'établissement scolaire? Et si l'école était en cause? C'est une question intéressante parce que dans le système d'éducation français notamment, on n'a pas l'habitude de se questionner souvent sur le système d'éducation. En tout cas, généralement.
Mm-hmm.
Alors, c'est intéressant qu'on se pose la question ici. En avril 2017, un film qui a circulé sur les écrans en France a donné la parole à ces mauvais élèves, ceux au fond de la classe. Le documentaire de Nicolas Hubelmann et Sophie Mitrani met le focus sur ces gens qui ont été considérés comme de mauvais élèves. Un titre qui les suit encore aujourd'hui comme un fardeau. Et ce, même s'ils ont réussi à s'en sortir et avoir un métier, une famille, etc. Chacun a une vision très différente de l'école. Ceux qui l'aiment ont surtout des souvenirs d'apprentissage, de liens sociaux formés et d'activités scolaires et parascolaires marquantes. Or, pour les, ouvrez les guillemets, mauvaises graines, fermez les guillemets, elle est un lieu d'oppression, une véritable prison. Eux se souviennent encore avec déchirement du premier jour où papa et maman les ont abandonnés dans ce lieu inconnu. Un endroit, en plus, où il faut rester immobile durant des heures et en silence à écouter le professeur. Une contrainte difficile, même pour des adultes. Alors ils chahutaient pour faire sortir cette peur, cet inconfort et cette colère d'être pris entre quatre murs. Chez ces élèves, il y a aussi la fameuse question « à quoi ça sert ?» qui ressort constamment. Bien sûr, on pourrait leur rétorquer qu'il est important que l'esprit apprenne des choses abstraites. Il s'agit d'un début de l'école. Or, il est tout aussi primordial de faire des liens avec la vraie vie. Dans le documentaire, un père, mal vu par sa famille pour ne pas avoir passé le bac, et on sait à quel point le bac, c'est une étape importante en France, doit répondre à son fils qui lui demande l'intérêt de connaître la guerre de 1870. L'homme arrive à lui expliquer qu'il s'agit de saisir les horreurs de la guerre, les conflits de domination de l'Europe, les deux guerres mondiales qui ont mené à la reconstruction européenne dans laquelle il vit aujourd'hui. Aussitôt, le visage du garçon s'illumine. Tout ça a pris un sens. Or, cet exercice n'est pas toujours accompli dans les classes. D'ailleurs, les anciens mauvais élèves vont souvent, au cours de leur vie, donner du concret aux matières scolaires. Par exemple, ils vont enfin comprendre les principes géométriques en faisant de la construction ou de la couture. Il ne faut pas oublier toute la question de la pression qui s'ajoute. Et celle-ci pèse autant sur les bons que sur les mauvais élèves. À la fin de l'année scolaire 2016-2017, au Québec, c'est intéressant, on fait référence à ce qui s'est passé ici l'an dernier, un reportage a montré que des enseignantes dénonçaient le stress de l'épreuve de mathématiques sur des enfants de primaire qui se mettaient à pleurer pendant l'examen. Ils avaient l'impression qu'ils n'auraient jamais le temps de répondre à toutes les exigences et d'effectuer toutes les étapes pour résoudre le ou les problèmes. Les professeurs dénonçaient la façon dont étaient conçues ces épreuves. Les très bons élèves y arrivent facilement et ont des notes frôlant le 100%. Or, tous les autres réussissent de justesse ou échouent. Une autre coche faite à l'estime personnelle des apprenants qui va les suivre longtemps tout au long de leur parcours scolaire et même après. Tout cela n'est pas nécessairement la faute des enseignants. Certains sont mise en valeur dans le documentaire, ayant essayé de donner un peu plus d'estime et de passion à ses élèves malheureux. Pour le co-réalisateur du film, Nicolas Hubelmann, il s'agit du système scolaire français qui ne veut que peu changer. Il le décrit comme un paquebot dirigé par des bureaucrates. Pourtant, il y a des approches qui pourraient modifier cela selon lui, comme un apprentissage et un accompagnement des élèves plus personnalisés. Il faut aussi remettre de la joie dans les classes et permettre aux professeurs d'avoir la latitude afin de pouvoir placer le savoir-être au cœur de la pédagogie. Des méthodes qui peuvent être appliquées autant numériquement qu'en classe ou les deux. Par exemple, à ces mauvais élèves qui demandent le pourquoi de l'étude d'une notion, pourquoi ne pas concevoir ou trouver un jeu sérieux qui la mette en contexte. Par rapport au... C'est évident pour nous, mais ça n'est pas aussi simple dans la réalité.
Non, c'est sûr.
Par rapport au stress et à la pression que provoque l'école, peut-être faut-il enseigner la résilience aux élèves. Leur inculquer que non, l'intelligence n'est pas fixe et qu'ils ne seront pas condamnés à être cancres. Alors, repensons donc notre question. Y a-t-il réellement de mauvais élèves ou est-ce plutôt le système scolaire qui n'arrive pas à s'ajuster afin de leur offrir des occasions d'aimer apprendre? Et si le logiciel éducatif se dotait d'une mise à jour humaine qui cessait de ne promouvoir que la performance, qui expliquait mieux les liens entre les savoirs et la vie? Avoir les cicatrisés de l'école, cela serait peut-être nécessaire. J'ai trouvé que c'était un texte intéressant,
oui.
Texte d'Alexandre Roberge, publié donc sur le site Cursus, cursus.edu, en novembre dernier.
Merci Marie. Alors Yvan, le vélo, un outil essentiel.
Le vélo, oui, dans une autre dimension,
oui,
que le côté strictement déplacement ou strictement loisir. C'est dans le dossier, c'est un dossier spécial qui s'appelle « Santé et vélo, un mariage de raison » qui a été produit par Vélomag dans le numéro de novembre-décembre 2017 et c'est écrit par Maxime Bilodeau. Alors, je vous raconte deux petites histoires que j'ai tirées de ce dossier-là.
Mm-hmm.
La première histoire, ça s'appelle « Du vélo à l'hosto » ou à l'hôpital. Préparer, pédaler de son lit d'hôpital.
Mais il faut se préparer pour pédaler.
Oui, c'est ça. Les gens de l'hôpital, il faut qu'ils se préparent un petit peu. C'est le traitement pas si saugrenu auquel les patients des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ont accès. La monture, étraînée par les éclopés, n'est pas en carbone, ni munie d'un groupe électromécanique. Quoiqu'à 22 000 $ l'unité, on aurait pu le penser.
Oh, pas là!
Nenni! Ça s'appelle le Motomed Leto 2. Je vous fais grâce de l'épellation.
Merci.
C'est un pédalier intelligent qui s'installe au pied d'un lit ou d'une civière et qui permet aux patients alités de tourner les jambes sans avoir à lever les fesses. Alors, tout le monde, imaginez, vous êtes couché, puis vous avez un pédalier au bout du lit, puis vous avez juste à placer vos pieds sur les pédales, puis à pédaler. C'est tout ce que vous avez à faire. Divers degrés d'assistance du mouvement sont possibles grâce au moteur intégré à même la machine. Acquis par l'Hôtel-Dieu de Québec en 2013, ça fait quand même 4 ans, ce gadget sophistiqué... C'est rapidement imposé auprès des professionnels en réadaptation physique, affirme Yannick Doré, physiothérapeute au Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Toute contraction musculaire, aussi minime soit-elle, est bénéfique pour combattre l'atrophie et la faiblesse musculaire. Dans un contexte de réadaptation précoce, c'est un atout inestimable dans notre coffre à outils, nous explique-t-elle. L'unité des soins intensifs de l'hôpital d'Ottawa recourt aussi également à un pédalier semblable. La faiblesse acquise aux soins intensifs, c'est le nom qu'on donne à cet état de déconditionnement hospitalier, est un problème sérieux. Selon l'European Society of Intensive Care Medicine, plus de la moitié. Oui, tu peux rire.
Parce que je remercie le ciel que ce n'est pas moi qui ai eu la liste.
55 % des patients, donc un peu plus de la moitié, pardon, qui demeurent plus de 8 jours aux soins intensifs, perdent de la force et de la masse musculaire. Pire encore, la perte de mobilité qui en résulte, en particulier des jambes, peut persister jusqu'à 5 ans. Après l'hospitalisation,
oh mon Dieu, c'est impressionnant.
À moins de pédaler, bien sûr. C'est ce qui a poussé la professeure de physiothérapie, Michelle Coe, de l'Université McMaster en Ontario, à étudier l'impact du pédalier sur des patients admis aux soins intensifs depuis 3 jours. Les premiers essais réalisés pendant 1 an dans un établissement de Hamilton sont encourageants. À raison de 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, les 33 sujets ont roulé en moyenne l'équivalent de 9 km durant leur séjour. Maintenant que la preuve de concept est faite, l'équipe du Dr Coe s'apprête à pousser plus loin ses expérimentations, une démarche essentielle, estime Yannick Doré. Nous savons que ce traitement est faisable et sécuritaire, mais il manque de données scientifiques sur ses bénéfices réels ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter pour en exploiter pleinement le potentiel. Alors ça, c'était la première petite histoire du vélo avec la santé. Voici la deuxième. Ça s'appelle « Pédaler pour survivre » et le « sur » est entre parenthèses. C'est l'histoire de Virginie Bukalov. Pour elle, le vélo est une manière de garder les pieds dans le réel littéralement. Depuis l'âge tendre de 16 ans, la Montréalaise d'adoption vit avec la maladie affective bipolaire, un trouble de l'humeur qui transforme son quotidien en véritable montagne russe, la faisant passer du septième ciel au troisième sous-sol et vice-versa. La maladie s'est invitée dans sa vie avec fracas sous forme d'une psychose maniaque qui, comme son nom l'indique, n'est pas de tout repos. Je faisais des raisonnements erronés en proie à des délires de grandeur. Bref, j'étais complètement déconnecté de la réalité. Je ne dormais presque plus et je mangeais peu. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fini par casser, raconte celle qui est aujourd'hui âgée de 28 ans. Hospitalisée d'urgence en pédopsychiatrie, où on tente tant bien que mal de stabiliser son humeur à l'aide de médicaments antipsychotiques, elle vit depuis des hauts et des bas sur fond d'épisodes dépressifs. Elle continue malgré tout de travailler, d'étudier et de pédaler. 9 mois par année pour me déplacer, beau temps, mauvais temps, depuis 11 ans, spécifie-t-elle. La petite reine, c'est le vélo, représente un des rares éléments de stabilité dans la vie de Virginie. Lorsque je roule, je m'expose à la lumière, je fais du sport et je rencontre d'autres cyclistes à vie avec qui je socialise. Je suis alors considérée comme une cycliste, pas comme une malade mentale, et ça fait un bien énorme.
Oh, c'est formidable. Hein?
C'est formidable. On voit à travers différents articles que l'on lit que l'entraînement physique est vraiment essentiel au bien-être de l'humain.
Oui. Puis ça dépasse la dimension stricte de performance physique.
Exactement.
Ça a vraiment plusieurs tentacules.
Bienfaits. Oui. Oui. Merci beaucoup, Yvan.
Bienvenue.
Alors, c'est la pause de chanson. Hein?
J'ai un petit chien, il s'appelle Reviens. J'ai un petit chat, il s'appelle Parpa. J'ai un koala, il s'appelle Reste avec moi. J'ai un caméléon, je l'appelle par ton nom. J'ai un bonobo, je l'appelle comme ton numéro. J'ai un crocodile, je l'appelle comme ton mobile. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour tout oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une souris, elle s'appelle, je t'en supplie. Et un épagneul, il s'appelle, me laisse pas seul. J'ai un lapin, il s'appelle, j'y comprends rien. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une gazelle, elle s'appelle, faut pas que je t'appelle. Et un perroquet qui me le répète sans arrêt. J'ai un éléphanto, il s'appelle Faux, que j'arrête avec les animaux.
La chanson Les animaux de Thomas Jensen.
Merci Mathieu, quel choix judicieux pour parler des animaux de compagnie qui peut-être pourront mieux, avec les recherches que l'on fait, pourront mieux soigner les humains. Alors, sous la plume de Marie-Lou Garon, un article pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 16 octobre 2017. Donc, de 90 à 95 % des nouveaux médicaments antidouleurs testés sur des humains ne se rendront jamais en pharmacie.
C'est vraiment énorme. Hein?
C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce formidable taux d'échec? Vous êtes curieux, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, selon le docteur Éric Troncy, de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, une partie du problème réside dans le modèle animal utilisé dans ces études. Alors, dans un article publié dans la prestigieuse revue Pain, Science, c'est une autre revue, lui et ses collègues plaident pour une utilisation plus grande des animaux de compagnie. Selon eux, la façon dont les animaux domestiques ressentent la douleur est très semblable à la nôtre. Ces modèles animaux, dits « naturels », permettent ainsi aux chercheurs de mettre au point, de manière plus efficace, des médicaments pour l'humain. Dans le modèle animal expérimental, qui est le plus courant, l'animal type est un rongeur mâle dont l'espérance de vie est plutôt courte. Or, dans le cas de la douleur, la plupart des patients atteints de douleurs chroniques sont des femmes âgées de plus de 40 ans. C'est la raison pour laquelle le docteur Troncy et ses collègues tenaient à clamer la nécessité de se tourner davantage vers le modèle animal naturel, par opposition à donc expérimental.
Okay.
Qu'est-ce qu'un modèle animal naturel au juste? Je vois le point d'interrogation dans les yeux d'Yvan.
Oui, depuis quelques minutes.
Mais je crée toujours un suspense,
oui,
on le sait.
Ça fonctionne.
Rien de plus qu'un animal de compagnie qui souffre d'une affection, que les chercheurs souhaitent étudier. Selon le docteur Troncy, l'utilisation de patients animaux s'avère particulièrement utile dans l'étude des maladies complexes. Ces animaux vont davantage refléter la complexité génétique, physiologique et environnementale qu'on trouve chez l'être humain. Tout comme les humains, les animaux de compagnie peuvent vivre longtemps. Ils ont des régimes et des habitudes diversifiées. De plus, ils partagent le même environnement que les humains et sont donc exposés aux mêmes facteurs de risque et modifications épigénétiques que leurs propriétaires. Et ça marche, le modèle animal naturel? Eh bien, pour le docteur Troncy, cela ne fait pas de doute. Lorsqu'un produit fonctionne adéquatement sur un modèle animal naturel, c'est quasi certain qu'il fonctionnera chez l'humain. Les produits que nous avons recensés ont un taux de succès chez l'humain de presque 100 % lorsqu'ils sont validés au préalable chez l'animal atteint de la maladie. Donc, quand on compare ce taux au 10 % de succès obtenu avec le modèle animal expérimental, il y a de quoi se réjouir. Le premier principe à respecter quand on recourt au modèle naturel, c'est que l'animal ne doit pas subir d'évaluation invasive, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se passer des modèles expérimentaux pour les premières phases, au cours desquelles on prélève entre autres des organes, par exemple. Le patient animal peut cependant être intégré dans une deuxième phase de l'étude, permettant ainsi de prédire l'efficacité du médicament chez l'humain. Il est évident que la solution n'est pas de multiplier les modèles animaux expérimentaux. En étudiant davantage nos patients animaux, en améliorant l'évaluation qu'on fait de leur état, on va forcément mieux les soigner et améliorer leur bien-être. Pour Éric Troncy, l'un des exemples à suivre en la matière nous vient des États-Unis. Le Canine Comparative Oncology Trials Consortium est un réseau de 20 centres d'oncologie gérés par les National Institute of Health. Né en 1907, ce réseau regroupe non seulement des médecins vétérinaires, mais aussi des oncologues.
En 2007.
Des médecins généralistes et des gens de l'industrie pharmaceutique et bien sûr des administrateurs. Le consortium effectue des recherches cliniques dans le but d'évaluer de nouvelles thérapies chez les chiens atteints de cancer. les résultats obtenus sont ensuite transposés chez l'humain. Donc, un exemple très concret de l'efficacité de ce modèle organisationnel. Le consortium a testé, à la fin de l'année 2013, un médicament sur 18 chiens. Leur espérance de vie est passée de 1 an à plus de 2 ans et demi. Donc, en avril 2016, après être passé par un processus accéléré d'homologation, Fast Track Designation de la Food and Drug Administration, ce même médicament était proposé aux personnes atteintes d'ostéosarcome, un type de cancer des os. Mm-hmm. Donc, un record dans le monde de l'élaboration des médicaments, où les délais sont habituellement de l'ordre de 7 à 10 ans.
Et c'est l'avantage.
Donc, le tout pour le bien de l'animal, mais surtout de son propriétaire humain. Mm-hmm. C'était donc un article de Marie-Lou Garon pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 16 octobre 2017. Et voilà. Alors Marie, une petite brève.
Oui, c'est la 40e édition du Salon du Livre de Montréal. Alors, au Salon du Livre, on bouquine, on lit, on écoute, on s'émerveille. C'est plein d'exposants qui offrent une variété littéraire aussi riche qu'inspirante. Et c'est à la Place Bonaventure, à Montréal. Et c'est là qu'on s'en va, Yvan et moi, cet oui. après-midi, au kiosque de Vues et Voix. Mm-hmm. Vous viendrez nous voir.
Pour quelques heures.
Pour quelques heures.
Le kiosque 300, si j'ai bien.
320.
320.
320.
Mm-hmm. Très
oui.
bien. Petite dernière.
Alors, dans mon cas, c'est pour faire suite à mes articles. Ça s'appelle « Voyager à vélo en autonomie malgré le handicap ». Adepte des voyages à vélo, Joseph Mignodi se retrouve en fauteuil roulant à la suite d'un accident. Malgré le coup du destin, le vélosophe français n'entend pas renoncer au plaisir du vélo. En quête de solutions alternatives, il explore le marché du vélo à main. Malheureusement, la plupart des vélos adaptés nécessitent un transfert du fauteuil au vélo, rendant l'autonomie toute relative. Alors, il a créé comme un petit véhicule où il rentre sa chaise roulante. Et il peut se mettre à pédaler. Mmh. Alors, c'est tout compact. Il peut mettre ses bagages aussi à côté. C'est un petit peu comme les trottinettes.
Merci, Yvan. Alors, Voix de service se poursuit après la pause. Restez avec nous pour la suite de cette émission dynamique et interactive, comme vous pouvez voir.
Y'a plus rien d'important, je n'aime que le vent qui frôle les chevilles sous les jupes des filles. Longtemps filait ma chance par les sorties d'urgence. Maintenant je fais tourner un piano sur mon nez. Quand elle passe près de moi et partout à la fois, on dirait de l'amour, un appel au secours. Y'a plus rien autour, car moi je cours après Marie. Je cours après Marie. Elle détruit l'ordinaire en mille éclats de verre, comme un grand dérapage. Un doigt sur le crémage, peine si je maîtrise, comme un orgue d'église. Je ne sens plus l'hiver, les journées sans lumière, et je file mon ralenti. Je cours après ma vie. On dirait de l'amour, un appel au secours. Y a plus rien autour, car moi je cours après ma vie. Y'a plus rien autour, car moi je cours après. On dirait de l'amour, un appel au secours. Y'a plus rien autour, car moi je cours après Marie. Je cours après Marie.
De l'album Le Feu de chaque jour, c'était Patrice Michaud qui nous chantait « Je cours après Marie ».
Alors, très belle introduction pour l'article que tu vas nous lire.
Ah oui, Yvan. Tout à fait. C'est dans... Il y a eu la semaine dernière une série de 3 ou 4 articles sur le sport étudiant et les réfugiés. Et oui. Dans ce cas ici, le titre de l'article, ça s'appelle « Le coureur des 1000 collines ». Ça a été écrit par Sophie Allard, c'est paru dans la presse du 6 novembre. Alors, quand il franchit victorieux le fil d'arrivée, Yves Siboudouabo, 24 ans, a parfois une pensée furtive, candide pour ses parents. Il avait 1 an quand ils ont été assassinés par des voisins lors du génocide rwandais en 1994. Je crois qu'il serait fier de moi, confie le coureur, vedette du Rouge et Or de l'Université Laval. Fier de ses résultats sportifs, certes, fier surtout de l'adversité qu'il a su surmonter, de l'homme qu'il est devenu. Confiant, patient, il fait son chemin vers son rêve ultime, une participation aux Jeux olympiques. Puis là, je vais juste répéter son nom pour que peut-être que vous vous en souveniez dans 2 ans. Yves Siboudouabo. Son sac d'école sur le dos, le garçon a longtemps couru par nécessité dans les rues de Kigali. Tous les jours, il franchissait au pas de course les 3 kilomètres entre la maison de sa tante Floriane et l'école primaire, matin, midi et soir. On quittait l'école tous en même temps, on partait comme des balles. C'était un jeu à savoir qui serait le plus rapide, raconte-t-il le sourire aux lèvres. Ce n'était jamais lui. J'étais vraiment petit. Je n'étais pas bon. À 12 ans, il s'est joint à un club de course et l'entraîneur l'a placé dans l'équipe des filles. J'étais fâché. On se moquait de moi, mais j'ai persévéré. J'ai travaillé très fort pour m'améliorer. Pour le retenir, son entraîneur lui offrait de l'argent de poche à chaque séance. À l'occasion, il lui donnait des chaussures pour remplacer les siennes trouées. Il vivait dans l'extrême pauvreté. Peu à peu, il a gagné en endurance, il a augmenté sa vitesse et il a grandi. Il fait aujourd'hui 6 pieds 1 pouce.
Oups! Petite différence.
Oui. Champion junior du Rwanda au 1500 mètres, il a été invité au championnat du monde junior présenté à Moncton au Nouveau-Brunswick. C'était en 2010. Yves avait 17 ans. Sa tante l'a accompagné à l'aéroport de Kigali. Je partais seul de chez moi pour la première fois. C'était excitant. Avant, je ne savais même pas que le Canada existait. Le séjour devait être de courte durée. Ma tante m'a prévenu que si je retournais au pays, j'étais en danger. Les meurtriers de mes parents avaient été relâchés de prison et promettaient d'achever le travail. Je voulais retourner chez moi. J'avais mes amis, mon école. J'ai supplié ma tante plusieurs fois au téléphone. Elle n'a pas bronché. Il a pris les $40 qu'il avait en poche et il s'est rendu à Ottawa. À l'époque, Yves ne parlait pas l'anglais, à peine le français. Par pur hasard, il a croisé une femme d'origine rwandaise qui parlait sa langue, le Kinyarwanda. Elle l'a conduit aux bureaux gouvernementaux où il a demandé le statut de réfugié. Pendant quelques mois, il a dormi dans un refuge pour sans-abri. Le jour, on devait quitter l'endroit. Alors, j'allais courir. Ça m'occupait et ça m'aidait à chasser la déprime. Courir me donne le sourire. Puis, je ne l'ai jamais vu, ce monsieur-là, mais je l'imagine facilement.
Totalement, hein? Oui.
Il a couru tous les jours dans les rues du centre-ville, devant le Parlement, sur les rives du canal Rideau et sur la piste Terry Fox du parc municipal Mooney's Bay. C'est là qu'il a rencontré le cycliste Michael Woods, alors coureur et directeur d'un club de course. La première fois que je l'ai vu courir, j'ai été vraiment impressionné. Il semblait flotter, voler, raconte Woods. Il l'a invité à se joindre au club. J'allais le chercher en voiture devant une maison qu'il disait sienne. Il attendait toujours dehors. Au bout de quelques semaines, j'ai su qu'il vivait dans un refuge. J'étais sous le choc. Woods l'a hébergé temporairement. Yves a continué de courir. Pour son collège d'abord, puis pour l'université Guelph, où il a étudié les mathématiques. L'an dernier, il a fait le saut à Québec et s'est joint au Rouge et Or de l'Université Laval. Il s'entraîne depuis avec l'entraîneur Félix-Antoine Lapointe, également l'entraîneur de l'Olympien Charles-Philibert Thibouteau. En 2016, le coureur a aidé le Rouge et Or à mettre la main sur le championnat national universitaire de cross-country en équipe, une première historique pour Laval. Comme le coureur en est à sa dernière année d'admissibilité, il enfilera bientôt le maillot à l'unifolier à temps plein. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne, ce qui lui permet de s'affilier à Athlétisme Canada. Les épreuves que j'ai traversées ont fait de moi un meilleur coureur et la course m'a aidé à traverser les épreuves. J'ai appris la patience, la discipline. Courir a changé ma vie, dit-il. Reconnaissant, il donne à son tour par l'entreprise de sa fondation Running Changed My Life. La course a changé ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu un entraîneur qui m'a donné une chance, qui m'a offert des chaussures et du matériel scolaire. Je veux maintenant aider des enfants du Kenya et du Rwanda. Je leur permettre d'aller à l'école et de faire du sport, de percer. Yves a plusieurs fois raconté son histoire. S'il le fait encore, c'est uniquement pour inspirer les jeunes nouveaux arrivants. Même si la vie est parfois vraiment difficile, ça ne sera pas difficile tout le temps. Un jour, ça va finir, souhaite-t-il leur dire. À voir son grand sourire, on le croit d'emblée.
Ah, oh, quel exemple fascinant de résilience.
Oui, tout à fait.
Et encore une fois, à travers le...
À travers le sport. Ouais. Alors, c'était dans la presse du 6 novembre sous la plume de Sophie Allard, le coureur des mille collines.
Merci, Yvan. Alors, c'est à mon tour de vous parler de couleurs sous la plume de Christophe Mijon pour les Cahiers de sciences et vie de juillet 2017. Le titre de l'article, le Harvard Art Museum, affiche la couleur. Alors, au quatrième étage du Harvard Art Museum, la lumière et les couleurs célèbrent leurs noces au sein d'un étonnant palais de verre. Du sol au plafond s'étirent des arcs-en-ciel de fioles, flacons, bouteilles, bocaux, affublés d'étiquettes aux noms mystérieux, tantôt poétiques, vert véronèse, ou encore inquiétant, azurite spécimen E. Les vitrines abritent plus de 3600 échantillons catalogués de pigments, liants, matériaux, minéraux ou équipements scientifiques historiques, tous réunis grâce à une collecte longue et obstinée, destinée à faire le lien entre l'art et la science. Il fut un temps, en effet, où les peintres ne se rendaient pas chez les marchands de couleurs, mais devaient se retrousser les manches pour constituer eux-mêmes leur palette. Mmh. Alors il leur fallait broyer des minerais venus du bout du monde, écraser des insectes, ou des mollusques pour en extraire les précieux colorants, trouver des liants à base d'eau ou d'huile auxquels ils incorporaient d'autres substances, résine, essence ou colle. Alors, au début du 20e siècle, un monsieur nommé Edward Forbes, directeur du Fogg Art Museum de l'Université Harvard, alors on comprend que le nom s'est transformé avec les ans, réalise, pour comprendre la détérioration des œuvres d'art et espérer pouvoir les réhabiliter, qu'il faut d'abord savoir de quoi elles sont faites. Dès lors, il n'a de cesse de s'interroger sur les techniques des grands maîtres pour enfin instaurer des standards de conservation susceptibles d'éviter justement des dégradations des œuvres et les restaurations maladroites. Donc, comprenant que les pigments qui composent les couleurs sont l'essence même de la peinture, il commence dès 1909 à les rassembler, enrichissant sa collection au fil des voyages à travers le monde. Il embauche également le chimiste Rutherford John Jettens, qui sera le premier scientifique à travailler dans un musée américain, ainsi que George Stout, un conservateur anglais très prometteur. Donc, le jeune Stout entame une correspondance avec les principaux conservateurs de musées à travers le monde et de l'époque et établit un ensemble de principes scientifiques de restauration. Dans le même temps, aidé de Jettens, il élabore un large catalogue d'identification des pigments et des liens en s'appuyant sur la collection de Forbes. Le manuscrit, en fait, le livre qu'ils vont produire demeure toujours un livre de référence aujourd'hui. Alors, avant ce grand déchiffrage, le champ de conservation et de la restauration, apanage d'artistes formés auprès de grands maîtres, ne relevait nullement de la science. Aujourd'hui, le musée est le temple de la transparence. À travers les murs de verre qui donnent sur la cour intérieure, les visiteurs peuvent observer, dans le laboratoire où sont analysées les œuvres d'art, le long et minutieux travail des scientifiques. On se ferme les yeux et on essaie d'imaginer cela. Hein? C'est tout à fait magique. Les différentes techniques ultra sophistiquées permettent aussi de rétablir la vérité et de confondre les faussaires. Ainsi, ces trois tableaux, découverts en 2002 dans un box de stockage de Long Island, faussement attribués à l'artiste, Jason Pollock. La spectrométrie de masse menée sur place a en effet révélé, à côté des pigments anodins comme l'ocre jaune synthétique, le bleu outre-mer synthétique et le blanc titane, d'autres pigments un peu embarrassants. Alors, du PY151, un orange commercialisé depuis 1969, seulement, ainsi que du PR254, un rouge synthétique, lui, commercialisé en 1974.
Oui, je pense qu'on a peint le salon avec ça.
Ah oui! Or, Pollock est mort en 1956.
Oh.
Donc, petit décalage, n'est-ce pas? Mm-hmm. En plus de divulguer les petits secrets des artistes, toutes ces investigations ont permis d'esquisser une histoire des couleurs et de retrouver les modes et les usages qui ont présidé à l'élaboration des palettes au cours des siècles. Alors, le travail se poursuit bien sûr. À côté de la très active section de recherche dont on vient parler et d'analyse, la collection, un temps en sommeil après le départ à la retraite de M. Forbes en 1944, a repris de la vigueur. Et ces dernières années, des pigments synthétiques produits depuis les années 1970 en provenance d'autres musées, de sociétés pétrochimique, hein? On le devine par les sigles, et le propre laboratoire du centre, on continue bien sûr à acquérir des pigments. À signaler parmi les dernières acquisitions, le mystérieux ultra-noir, le Vanta Black, un pigment qui absorbe 99,965% de la lumière, donc rendant l'objet qu'il couvre presque invisible.
Comme un trou. noir.
Comme un trou noir.
À quelques millimètres.
Ouais, de... ouais voilà. Oh, yeah, yeah. Alors, c'était un article de Christophe Migeon pour la revue Les Cahiers de Science et Vie de juillet 2017. Pardon. Mm-hmm. Alors Marie, les enfants rois?
Le cliché de l'enfant roi. Merci pour le clin d'œil musical. C'est un texte de Marc Cassivi qui a été publié dans la presse le 12 novembre, donc c'est tout récent. Alors, Ginette a écrit à Marc Cassivi dimanche dernier « Bien fait pour ce petit mal élevé ». C'était un courriel concis qui en résumait des dizaines d'autres de lecteurs qui réagissait à la chronique de Marc Cassivi de la semaine précédente, qui s'intitulait « Les meilleurs sièges ». Alors, je parle au jeu, mais je suis Marc Cassivi maintenant. J'y racontais l'histoire d'une jeune mère et de son enfant de 2 ans, qui étaient mes voisins de siège sur un vol européen low cost, donc en classe économique, alors que le bambin jouait avec la tablette du siège devant lui. Une vieille dame s'est levée, l'a fusillé du regard et, sans avertissement, a insulté vertement sa mère, une femme dans la jeune vingtaine, devant tout le monde. La jeune mère a réagi avant que je ne puisse intervenir. La vieille dame, après s'être plainte au personnel de bord, a obtenu de meilleurs sièges pour elle et son mari. C'était une fable sur les privilèges, ce texte précédent. L'histoire d'une jeune mère noire, débordée, qui, après avoir été agressée verbalement et traitée comme une moins que rien par une vieille dame blanche, s'est défendue en désignant son fils et en disant « Ce n'est qu'un bébé ». Je suis sans doute naïf, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une majorité de lecteurs prennent le parti de cette vieille dame effrontée. C'est pourtant ce qui est arrivé. Le courriel a d'ailleurs été particulièrement abondant en sa faveur. La vieille dame avait entièrement raison, m'a écrit Jean-Pierre. On en a assez de ces enfants mal élevés dans les avions, low cost ou pas. Ces enfants qui dérangent la quiétude collective. Si ces parents ne sont pas capables de contrôler leurs enfants, qu'ils restent chez eux. Mes enfants n'auraient jamais eu un tel comportement. Ils étaient bien élevés et quand même heureux. Des dizaines d'autres lecteurs, pour la plupart d'un certain âge, m'ont répondu sensiblement la même chose, en maugréant contre les enfants rois d'aujourd'hui, mais pas leurs petits-enfants.
Bien sûr.
Bien sûr. Et en regrettant avec nostalgie le bon vieux temps où pas un enfant ne pipait mot au restaurant. Ce ne serait pas plus simple d'élever son babouin avant de le trimballer partout et faire chier les autres? Je suis désolée. A demandé Bernard, qui ne semble pas craindre, en parlant d'un jeune enfant noir, de passer pour raciste. Mm-hmm. J'ai été à la fois intriguée, estomaquée et sidérée par la plupart de ses réactions. Ce qui m'a surtout frappée, c'est le manque cruel d'empathie pour la jeune mère, surtout de la part de grands-parents se permettant, comme cette vieille dame désinhibée, de faire la leçon aux autres en étant convaincus qu'ils auraient fait mieux dans les circonstances. Tout ce qui a un impact sur ma tranquillité et qui se contrôle chez un enfant, je ne l'accepte pas, m'écrit fièrement François. Dans de telles situations, quelles que soient les circonstances, la réponse appropriée d'un parent responsable ne devrait pas être « ce n'est qu'un bébé ». La réponse devrait être « je suis désolé, je m'en occupe ». J'espère que votre papier n'incitera pas à donner la mauvaise réponse. La mauvaise réponse? Si je comprends bien, après avoir été insultée et traitée de mauvaise mère par une inconnue parce que son enfant de 2 ans a eu le malheur de se comporter comme un enfant de 2 ans, il aurait fallu en plus que cette jeune mère s'excuse? Le cliché de l'enfant roi du 21e siècle, élevé par ses parents milléniaux, ressassé sans cesse par trop de gens de la génération lyrique de « L'après-moi le déluge », m'exaspère et m'indispose à un degré que je ne saurais décrire avec des mots justes. M'est avis que beaucoup de ses lecteurs, pro-vieilles dames, ne se souviennent plus de ce que c'est élever un enfant en bas âge, encore moins de le contenir en avion pendant des heures. La mémoire est une faculté qui non seulement oublie, mais ne retient souvent que la version édulcorée des événements, à l'avantage de celui ou celle qui préfère se donner le beau rôle. Certains préfèrent croire qu'ils ont été des enfants exemplaires et des parents irréprochables, ayant appliqué en tout temps et en toutes circonstances le parfait dosage de discipline, d'éducation et d'affection. Jamais, au grand jamais, à les croire, leurs enfants n'ont dérangé qui que ce soit dans un lieu public. S'il y a une leçon de savoir-vivre à servir dans cette histoire, c'est à cette vieille dame, honteusement enorgueillie de ses privilèges petits bourgeois, qui s'autorise à déverser son fiel sur une jeune mère de la classe ouvrière, à peine sortie de l'adolescence, qui fait de son mieux pour élever seule son enfant. S'il y a quelqu'un qui devrait rester chez lui, c'est celui ou celle qui ne peut tolérer la vie en société. Faudrait-il noliser des avions exclusifs aux adultes intolérants aux enfants? Interdire les mineurs comme les cigarettes? Créer des sections spéciales pour tous ceux dont le confort ne saurait souffrir pendant quelques heures de ce qu'un enfant rit, crie, rouspète lorsqu'on attache sa ceinture ou pleure parce que la pression de la cabine lui fait mal aux oreilles avant l'atterrissage? Ce que l'on appelle communément la vie? Je n'ose imaginer la réaction de ces lecteurs indisposés si j'avais parlé dans ma chronique d'un enfant réellement turbulent. Leurs courriels, nombreux, témoignent de l'intolérance collective de notre société vieillissante face à l'enfance et donnent l'impression que beaucoup d'entre eux ont davantage d'égard pour les animaux domestiques, dont on parlait tantôt, de leur prochain, que pour leur progéniture. Il y a certainement dans l'échantillon de courriels reçus un très clair clivage générationnel. Bien sûr qu'il faut éduquer les enfants. Personne ne dit le contraire. Mais alors que les plus jeunes compatissent avec la mère, les plus vieux défendent le comportement inacceptable de la vieille dame. Un enfant de 2 ans a joué 30 secondes avec une tablette dans un avion. Aurait-il fallu le ligoter et le bâillonner pour le faire taire? Le menacer d'un châtiment corporel pour l'empêcher de bouger? L'envoyer à l'arrière de l'appareil avec sa mère, comme à l'époque de Rosa Parks? Les temps changent, heureusement. Mais... pas tant que ça, quand on y pense. Merci, Marc Cassivi.
Ça serait intéressant d'avoir son courrier maintenant.
Oui.
Alors, une question qui a été posée dans une revue scientifique. Un bébé apprend-il à parler et à marcher en même temps?
Bonne question. Et à être maire de Montréal?
Et à être maire de Montréal. L'idée est répandue. Un enfant qui parle ou qui a des dents tôt marchera plus tard et vice-versa. Mais c'est une idée fausse, répond la pédiatre Brigitte Chabrol. Le développement psychomoteur de l'enfant est un tout. Motricité, communication, compétences sociales et développement cognitif se mettent en place en même temps. Toutes ces évolutions étant le résultat de la maturation du système nerveux et bien sûr des facteurs environnementaux, les indispensables stimulations apportées à l'enfant par son entourage. Ainsi, si vers 9 mois le bébé commence à se tenir debout, c'est parce que ses capacités cognitives lui permettent de comprendre l'intérêt de savoir marcher. Autonome, il pourra enfin aller chercher des objets tout seul. Il comblera le désir de ses parents.
C'est que ça sert à quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Alors, samedi 18 novembre, 11h, angle Sainte-Catherine-Ouest et les rues du Fort et Saint-Urbain.
Oh!
C'est le départ du défilé du Père Noël sur la Sainte-Catherine.
Alors, dans un tout autre registre, dans le budget des cyclistes français qui ne bénéficieront plus dès février prochain de la prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique. Cette prime pouvait monter jusqu'à 200 euros, c'est-à-dire 300 $ canadiens, et a tout de même permis de financer l'achat de 250 000 vélos à assistance électrique en France.
Ouh, wow! Alors, chers amis, une petite...
Un très court mot d'enfant, selon Adrien, 12 ans. Google. Moi, je sais que c'est un grand écrivain russe du siècle dernier. Mettons, Google, mettons.
OK.
Voilà.
Bon, alors écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Marie et Yvan du choix de vos articles. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine.
Ah oui.